Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Les mecs que je veux ken. Mes souriceaux, mes lutins des bois. Si vous entendez au loin les cigales, c'est parce que j'enregistre cette intro à Avignon, où je joue mon spectacle au Théâtre des Béliers à l'occasion du festival. C'est la première ce soir et c'est complet. Aujourd'hui, dans le podcast, nous recevons une humoriste, youtubeuse que vous aimez tant. Il s'agit de Swann Périssé, qui est venue chez moi le 8 février, avant mon quatrième plateau à la Nouvelle Scène. Ça, c'était le grand projet chronophage de cette année, que je ne réitérerai pas a priori l'année prochaine, à part exception. En tout cas, je vous réserve d'autres surprise. Avec Swann, on a beaucoup parlé d'humour, mais aussi d'amour et de dating, de ses rencontres après sa douloureuse rupture, dont elle parle évidemment dans sa vidéo iconique chef-d'œuvre d'Internet. Et on adresse un sujet qui m'intéresse particulièrement, comment faire comprendre à nos conquêtes amoureuses qu'on parlera d'eux publiquement, dans des reels, sur scène, dans des podcasts, ici, là, c'est ce que je vais faire. Comme vous le savez, j'ai un partenariat avec Bumble, l'appli où ce sont les nanas qui font le premier pas, et j'ai pas encore eu le temps de faire un nouveau date. Par contre, je parle depuis quelques jours avec trois garçons différents dont je vais vous décrire les profils. Il y a B, 38 ans, qui écrit dans sa description « Et si on allait plutôt prendre un verre ? » Simple, va à l'essentiel, j'aime bien, pas de cheesy, pas d'emoji surf, pizza, rando. B fait 1m83, ça va, il fait souvent du sport, signe Lyon, a un master ou un doctorat. Il boit à l'occasion, ne fume jamais, cherche une relation amoureuse, a déjà des enfants et en veut d'autres. Il indique qu'il est de gauche, cool. Centre d'intérêt football, ok. Variété française, bah parfait, moi aussi. Cuisiner, parfait. Bar, ok. Boîte de nuit, ouais, petit turn-off. Ça fait un peu kéké, mais bon, passons. Première photo, très beau visage avec une petite barbe grisonnante. Deuxième photo, aïe, torse nu sur un voilier. Ah. Attention B, c'est un peu comme la boîte de nuit, ça fait un peu beauf. Mais bon, troisième et quatrième photo, un peu boring. Cinquième photo, la plage avec un truc de voile de je sais pas quoi. Bon, c'est fou, à la place que prend le sport dans la vie des gens, mais bon. Enfin, dernier léger turn-off, à la question proposée par Bumble, on s'entendra bien si. B répond, si tu réfléchis, ce qui me paraît un peu prétentieux. Mais c'est peut-être de la maladresse de sa part ou de l'extrême franchise, je ne sais pas. Choix numéro 2, N, 33 ans, 1m87, oh, pas mal. Il est programme manager chez Tech, a un diplôme d'ingé à Centrale. Sa description est en anglais, « Hi, I'm French, lived in Canada ». Il aime les émoticônes. Hein. « Back to Paris since a few months, I like to travel and discover new places, culture, ok. Bah, » je trouve que ça en jette. Hein. « Anne cherche une relation, veut des enfants, politiquement il est au centre, bon. » En même temps, le gars fait une école de commerce, c'est pas étonnant. « Ça fera encore plaisir à ma mère, il a l'air mignon sur ses photos, seul léger red flag, je crois qu'il a du gel dans les cheveux sur sa deuxième photo. » Mais bon, ça se déconstruit facilement. Je lui jetterai ses pots de gel. Ok. Et enfin, le dernier, je crois que c'est mon vrai crush, même si il s'appelle... Désolée, je vais donner son prénom, il s'appelle Kevin. Kevin est proviseur adjoint dans un collège-lycée, il a 31 ans et écrit « Un jour, j'irai rouler en montagne avec toi. Amateur de sport et d'aventure, j'aime quand ça déroule. À l'écoute de toute idée, on va grimper et prendre un verre ?» Emoji sourire. Alors Kevin aime vraiment le verbe « rouler » qu'il utilise un peu à tort et à travers et en même temps, il n'est pas prof de français. Il fait 1m86, fume et boit à l'occasion, ne sait pas encore trop s'il veut des enfants, il est athée, bon c'est cool, il est aussi au centre, bon un peu bizarre quand on bosse en milieu scolaire, mais bon, il échoue sur ses photos, par contre il est géolocalisé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, c'est assez loin de chez moi, mais ça m'amuserait de le rencontrer pour un verre. Je vous raconte ça la prochaine fois. En attendant, je vous laisse dans les mains de l'incroyable Swann Périssé. Mesdames, messieurs, Swann.
C'est que... petit-déj.
Hey, elle est trop bien, je suis contente. Fait, en fait. Bah ouais, écoute, on fera juste attention à pas manger pile dans le micro.
Ouais, c'est ça.
Mais
okay. Wow, c'est magnifique. Merci Hop. Beaucoup, mon petit chat d'amour.
Avec grand plaisir.
Trop bien. Wow, incroyable. Quel accueil merveilleux. Trop beau chez toi, c'est incroyable.
C'est vrai.
Est-ce que les gens le savent en t'écoutant?
Bah, les invités parfois le disent et ça me fait toujours plaisir d'être complimentée sur mon appart.
C'est trop beau. Après le podcast, je pourrais fouiner partout.
Ouais, grave, grave, carrément.
Ah ouais. Oh, ouais. J'ai vu qu'il y avait genre 40 000 livres.
Ah oui, il y a des livres.
Je trouve que tu es bien plus érudite.
J'en ai acheté beaucoup récemment que j'ai pas encore eu le temps de lire, tu vois.
J'ai un copain récemment à qui j'ai dit que... je lui ai dit que je j'étais pas capable de lui chanter...
Lécher.
Une chanson de Calogero, non, de Pascal Obispo. Je lui ai dit, c'est lui en apesanteur. Non, il m'a dit ça, c'est Calogero. Et il m'a dit, ah, tu dois être trop intelligente, tu dois beaucoup lire.
Oh.
Parce que je lui ai dit, genre, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Et en fait, je lui ai dit, non, pas du tout, je passe ma vie sur Instagram. Enfin, vraiment, je...
Putain, t'as été beaucoup trop honnête.
Ouais,
moi, dans ces cas-là, je fais, ouais, je sais, je suis désolée. Avec mes potes, je dis la vérité.
Ce jour-là, je lisais un livre pour la première fois.
Attends, faut que je te donne un deuxième couteau. Parce que si celui-là est pour l'odeur, tu utilises les deux.
Ah ouais,
surtout
oui.
Quand j'en prends pas. Ouais. Je t'ai écrit un petit poème.
Waouh, j'ai trop de chance. Putain, c'est trop stylé. Je suis trop contente.
Non, mais moi aussi, je suis trop heureuse de te voir, Swan. Vraiment.
C'est trop cool. On racontera comment on s'est connus.
On racontera comment on s'est connus.
Ouais.
On racontera comment tu m'as coachée à moins me déprécier dans mes posts sur Instagram. Je sais pas si j'ai beaucoup progressé là-dedans.
C'est vrai. Trop bien.
Swan, l'une des femmes les plus impressionnantes que j'ai rencontrées de ma vie. Rien ne paraît impossible pour Swan, que j'ai rencontré à un plateau de stand-up dans une laverie alors qu'elle préparait Montreux. Swan était venue avec plein d'amis, elle riait fort. J'étais fascinée par son énergie, la puissance de sa présence. On l'aime immédiatement. Swan avait été extraordinairement encourageante, généreuse. Elle était venue voir ensuite mon spectacle à la petite loge. De mon côté, je regardais toutes les vidéos qu'elle avait faites. J'en venais à vouloir devenir youtubeuse comme elle, tellement Swan m'inspirait et me touchait. Sa vidéo sur la rupture m'a fait beaucoup de peine, j'ai beaucoup pleuré en la regardant, et ça m'a aussi incroyablement aidée. Je me suis sentie moins seule, j'avais besoin de ce témoignage sur l'amour. Puis les récentes vidéos de Swan sur l'écologie m'ont confondue d'admiration. Swan qui quitte tout pour lancer des initiatives, des chantiers écologiques chez ses abonnés et vivre dans une caravane, mais dingue. Swan est époustouflante, entière, terriblement vivante. Je te reçois ce soir sur mon plateau, quel honneur, Swan, et merci de venir dans mon podcast. Je t'aime.
Ah, merci à toi, Rosa. Je suis émue aux larmes. Ça m'a plongée dans les souvenirs. C'était très touchant. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi. Parce que, tu sais, je pense même que tu m'as inspirée, même pour mon livre.
Waouh.
Non, mais sérieux. Parce que à chaque fois que je tombais sur tes vidéos, j'étais... Tu sais, je me prenais un vent. Tu sais, le vent froid quand t'es face à la mer, de sincérité. Je me disais, oh là, l'exigence de sincérité. Et comment tu vas tellement loin dans l'intime et à quel point c'est pas français, enfin je sais pas, c'est pas commun, tu vois. Et je me disais, bah ouais, et vraiment, je me disais, moi aussi, j'avais envie de te ressembler, quoi.
Bah écoute, ça me touche trop, c'est trop gentil. Ouais, c'est vrai que la sincérité, je pense que ça me vient du stand-up.
Ouais.
Donc, moi, j'ai été humoriste pendant des années avant d'être youtubeuse. Et là, je me remets à la scène officiellement depuis 2 semaines, donc... Voilà, j'avais arrêté pendant 2 ans. Et en vrai, la ville, c'était tout pourri pendant 2 ans.
Ouais,
tout
ouais,
était
ouais.
Fermé. Et moi, j'étais en caravane, j'étais là. Allez, faites vos trucs tous en passer les uns sur les autres.
Ouais.
Moi, je vais aller genre planter des machins et voir comment ça pousse. Et puis, on revient quand
non, mais
on va tousser dans le visage des gens. Quoi.
Ok, il y a tellement de choses dont j'ai envie de te parler. À la fois, j'ai envie de te parler de ta vidéo sur la rupture. À la fois, là, j'ai envie de te parler de récemment, justement, l'expérience. Je veux dire, c'est quand même fou. T'as passé là. 2 ans de ta vie dans une caravane?
Ouais, 1 an et demi, ouais.
Non, mais meuf! En fait, il y a des gens parfois qui te disent à quel point t'es une ouf, hein, c'est extraordinaire. Enfin, surtout que c'est pas comme si t'étais genre du voyage, c'est pas comme si à la base t'étais née dans une caravane.
Enfin, non, pas du tout.
Bah, tu vois, t'as bouleversé ta vie.
J'ai bouleversé ma vie, ouais. Enfin, j'ai été bouleversée par ma vie, j'ai été poussée vers le bouleversement, mais ouais, carrément. Et ma meilleure amie, Louane, sort une vidéo là, qui s'appelle Ma meilleure amie vit dans une caravane. Et elle m'a dit, elle fait le dérush, elle m'a dit c'est 30 minutes de moi qui me plains. Donc ouais, je pense que peut-être les gens me trouvent forte de loin, mais quand tu viens passer une nuit dans la caravane, t'es plutôt mort de rire, quoi. C'est vraiment précaire en termes de confort. Mais ouais, j'ai trouvé ça merveilleux, c'était trop bien. J'avais vraiment envie de, ouais, de tout changer, bouleverser tous les repères, tout ce que je connaissais. Donc pour ceux qui savent pas, moi je suis parisienne, quoi. Donc je suis restée vraiment 29 ans à Paris. Et après, je suis partie voilà, en caravane, quoi. Donc je suis pas partie dans une autre ville de province. Je suis pas partie... Je suis pas partie à la campagne, je suis partie dans une petite caravane des années 80 qui appartenait à mon grand-père, de 4 mètres carrés, sans douche et sans toilette. Et j'ai dit, dorénavant, ça sera ça ma vie. Quoi.
Meuf, mes respects. Non, mais c'est pour... enfin, moi, c'est le truc qui me paraît impossible. Je suis tellement, après, sédentaire et pas baroudeuse. Après, t'aimes... T'étais déjà quand même une nana hyper branchée dans les frissons, l'expérience de vie. T'as un truc par rapport à l'expérience de la vie, quoi. Faut que tu la sentes dans les tripes, quoi.
Ouais, moi, j'ai toujours aimé les sports d'adrénaline. Ouais. Je fais du VTT de descente, du parapente, beaucoup de roller. J'ai commencé le roller en skatepark. Alors, j'ai pas un énorme niveau, mais j'aime bien ouais, tomber. Enfin, ce que je préfère dans le roller, ouais, c'est le moment où je... Ça s'appelle le drop. C'est le moment où je me jette dans le vide... du haut d'un module de 4 mètres, tu vois.
Wow.
Vraiment physiquement, genre, tu te jettes dans le vide, en fait.
Waouh.
C'est vraiment le moment que je préfère et que je déteste le plus. Ce que je déteste le plus, c'est juste avant. Et dès que je l'ai fait, je dis, ah bah au pire, je le sens, tu vois. C'est trop bien.
Mais c'est exactement la métaphore. T'es dans... Oh putain, le chat va me faire chier. En fait, normalement, j'enregistre...
Je peux le prendre, il va me griffer.
Non, il griffe
pas.
Ah,
le beurre.
Enfin, ça, c'est putain, bon. il est vraiment mal élevé. Minou, c'est pas possible. Je reçois Swan, il faut vraiment... Mais c'est un classique, quoi. Normalement, il est pas là... Mais en fait, c'est un peu ce que tu fais déjà dans la vie, c'est prendre des risques de ouf, comme quand tu décides, tu vois, de réaliser un court-métrage avec de 20 minutes, avec je sais pas combien de figurants, et
70.
Même ouais, 70 figurants, et le court-métrage est déjà un peu un court-métrage, pas d'horreur, mais qui raconte aussi une expérience de... En fait, limite, c'est à chaque fois des near-death situations, quoi.
C'est clair. Ouais, je fais pas du tout partie de la team qui dit il faut souffrir pour être humoriste et tout, je le pense pas.
Ouais.
Parce que moi, j'ai besoin d'être heureuse et légère quand je crée surtout de l'humour. Mais ouais, enfin... Je transforme mes traumas en humour, en création, c'est sûr, quoi.
Ouais.
Après, il me faut du temps, en général, quoi, ça prend du temps. Et ouais, toutes les expériences de résilience, de combat et tout. Enfin, j'en parlais hier sur scène, j'ai beaucoup de colère en moi, beaucoup de violence et tout. Donc, tous les trucs héroïques, surtout portés par des femmes, je trouve que c'est des histoires qu'on a moins entendues, qui ont été moins visibilisées. Bah, toutes ces histoires-là, ouais, ça m'inspire trop, quoi. Et je me dis, ouais, on est battante, quoi, genre.
C'est clair.
Et du coup, ouais, en faire un court-métrage, en faire de la comédie. En fait, moi, je suis partie en caravane, donc avec ma chaîne YouTube Vers chez vous, je vais chez les abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et je suis partie avec ma caravane pour apprendre à bricoler, en fait.
Ok.
Donc, mon ex était très, très bricoleur.
Mm-hmm.
Et donc, je me suis fait larguer comme une merde. Par mail, et je ne l'ai plus jamais revu et tout. Et après, je suis restée à la maison et j'ai commencé à installer un peu des bureaux dans mon appart quand j'explorais un peu ce que je voulais faire. Et j'ai dû installer des étagères. Et en fait, j'arrivais pas à mettre la mèche de ma perceuse visseuse. Et tu vois ce que c'est une perceuse visseuse ?
Non, je vraiment pas.
T'inquiète, hier j'ai fait des blagues un peu de bricolage sur scène et j'ai bien vu que le public était parisien. Parce que n'importe qui à partir de l'extérieur du périph',
c'est ce que c'est.
C'est ce que c'est qu'une perceuse visseuse.
Non.
Donc c'est vraiment l'objet le plus basique en bricolage. Et c'est pas du tout pour me moquer, hein, c'est vraiment pour... J'étais comme toi il y a un an et demi. Enfin, il y a deux ans. En gros, c'est un objet pour mettre des vis dans des murs, dans du bois. Ou pour faire des trous dans des murs, dans du bois et tout. Et c'est la base du bricolage, quoi. Pour accrocher quelque chose, il faut faire des trous à la base. Et donc, j'arrivais pas à mettre le petit bout qui permet de faire des trous dans la machine. Et j'étais en larmes par terre, quoi. Vraiment, au milieu de ma chambre, j'étais en PLS, en train de pleurer et de me dire, enfin, je vais mourir, en fait. Parce que, genre, avant, mon ex était en train de construire sa maison et tout. Le mec, enfin, avait une formation en bâtiment, clairement. Et puis moi, je sais pas, me servir d'une perceuse visseuse. Et du coup, je me suis dit... Enfin, j'étais désespérée, je me suis dit, mais c'est un truc qui s'apprend à deux, quoi. C'est un truc qui s'apprend à plusieurs, quoi. Genre, je vais pas regarder des tutos toute seule pour apprendre à accrocher une étagère, puis une étagère que je vais regarder toute seule. Enfin, c'est nul, quoi, tu vois. Et puis moi, j'étais vraiment amoureuse de l'amour, du couple et tout. Donc, j'étais effondrée. Et je me suis dit, en fait, je vais être le couple des gens. Je me suis dit, je vais aller chez les gens et on va apprendre ensemble. Sauf que, en plus, vu qu'il y aura les caméras, que je viendrai que quelques jours ou quelques semaines, bah, on va tous se foutre un coup de pied au cul. Et je voulais aussi changer ces couples qui ont plein de projets et qui vont jamais au bout des trucs. Tu sais, qui se disent, ouais, on va faire un compost, on va refaire ce meuble, etc. Mais qui le font jamais. Bah parce qu'il y a Netflix et, et la vie, et que c'est fatigant, et que t'as plein d'autres trucs à gérer, des problèmes d'argent, des problèmes de t'as des enfants, des trucs. T'es fatiguée, quoi, dans la vie. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais être le couple le plus cool, quoi. Je vais arriver, je vais dire, viens, on fait ça, tous les deux, toutes les deux, à fond et tout. Bah, c'est surtout des femmes, hein, qui ont répondu à mon appel. Parce qu'on peut remplir un formulaire en ligne pour me dire, viens chez moi et tout. Pour construire ça, pour fabriquer ci, pour apprendre à faire ça. Et du coup, j'ai appris avec les gens, et ça, c'était incroyable, quoi. Maintenant, je maîtrise la scie, le travail du bois et tout. Alors, je fais encore des trucs tout pétés, hein, mais au moins, ça tient debout. Voilà, je dirais que sur mon échelle de progression, je suis à 2 sur 100, tu vois, mais je suis à 2, quoi, déjà. Et ça, c'est vraiment incroyable.
C'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais que ça m'inspire, mm-hmm. parce que moi, la dernière fois, dans le dernier épisode, j'ai fait une outro en disant que, justement, j'étais vraiment pas sportive. Non. Minou, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, Minou. Et... T'as vu cette voix de vieille ?
Ouais.
et j'ai reçu un message d'une auditrice qui me disait « Bah écoute, si tu veux, moi je peux t'apprendre à faire du sport, on peut faire des zooms, je peux t'envoyer des trucs et tout. » Et je me suis dit, et comme mon éditeur m'avait dit « Ouais, faudrait que tu fasses une série d'épisodes. » Parce qu'on me réclame souvent des épisodes aussi avec des totales inconnus, vraiment des anonymes. Il dit « Tu pourrais faire avec des lecteurs, des gens qui ont lu ton livre et vous en discuter et ils te racontent en quoi ça les a touchés par rapport à leur histoire personnelle, ça se trouve sans leur nom, sans leur visage et tout. » Mais je me dis, ouais, ça m'inspire à faire des trucs un peu comme ça, en mode je rencontre les auditeurs, vous me coachez, genre je sais pas, vous me sortez parce que c'est tellement dur pour moi. Allez Rosa, on va courir, allez Rosa, quelques squats sur le sol, tu vois. Je suis même pas sûre qu'un zoom, je pense que si c'est un zoom, je pense que sans qu'il y a 100 personnes, je le ferai pas. Je le ferai jamais, tu vois.
Je comprends parce que la vie c'est aussi des expériences. Donc là, moi depuis 3 semaines, je suis sédentaire, enfin ça fait 1 mois maintenant. Donc j'ai posé ma caravane un jour et j'ai dit, vas-y, j'en peux plus, je veux plus dormir dedans. Et donc, j'ai trouvé une location à Montpellier. Je suis dans une maison pour quelques mois. Et c'est cool et tout. Et bon, il se trouve que je suis très, très contente maintenant de faire des trucs pour moi. Parce que ouais. Même si j'adore faire des trucs pour les autres, là, c'est un peu... Enfin, c'est trop bien de pouvoir les faire dans le temps aussi. Et pas juste 3 semaines, puis disparaître pour toujours et pas voir où va le projet. Mais je suis d'accord avec toi que bah, c'est des projets qui sont dans le partage, en fait. Et le sport, c'est marrant à plusieurs. Et il y a plein de gens qui ont des coachs et tout. C'est pas qu'ils ont la flemme de faire du sport. C'est que c'est plus rigolo à deux, de montrer ses progrès et tout. Mais d'ailleurs, cette indépendance et le pouvoir de mon corps, quoi, explorer ce qu'il pouvait faire et tout, ça a commencé avec du sport. J'ai perdu genre 10 kilos, j'avais les abdos visibles et tout. T'inquiète, je les ai bien.
Non,
mais...
T'as des petits bras tout maigres, là.
Ouais, ils sont tout minces.
Ouais, ils sont tout
minces.
Mais
attends, je te raconterai parce que je fais un projet incroyable. Ah, je vais te donner exclu ce qui va faire que je vais un peu grossir ces prochains temps, mais ça va être incroyable.
Ouais.
Et, mais en gros, on s'en fout de la perte du poids, c'est pas du tout la question, c'est que... J'ai vraiment appris à explorer la puissance de mon corps. Je suis devenue vraiment forte en sport et je faisais genre 3 heures de sport par jour. Pendant le confinement, il y avait une route de 350 mètres carrés. De 350 mètres carrés. La meuf qui achète trop des maisons. Je n'ai pas dit non 350 mètres carrés, mais je cherche à acheter une maison, donc clairement, je suis trop déformée. Non, de 300 mètres, de 300 mètres devant chez moi, là où j'étais pendant le confinement. Et en gros, je faisais des allers-retours à toute allure pendant genre 1 heure par jour en roller.
Wow.
Une grosse psychopathe. Et en fait, j'avais envie de tester mes limites, j'avais envie d'être puissante, quoi. Et je le suis devenue, et c'est vraiment une libération. Et maintenant, je me dis qu'il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Je ne pourrais pas devenir une sportive professionnelle et tout, mais tous les domaines que je veux explorer, vu que j'ai beaucoup plus de patience sur le long terme et de bienveillance envers moi-même, je me dis que bah, voilà, tout est possible. Je ne sais pas, genre, apprendre la musique sur ordinateur... devenir super baraque.
Mais j'avais fait des lives pendant le confinement, ouais. Quand les lives que tu faisais à 9h où tu faisais du sport, j'en avais fait certains.
Ouais.
J'essayais, mais j'étais nulle et tout. ça fonctionnait pas de ouf. Mais je t'avais un peu suivi. Et j'ai une question d'aller chez les gens. Alors, ça doit être à la fois hyper émouvant, incroyable de rencontrer, de mettre aussi un visage sur les abonnés, même si. Et est-ce que tu as eu, par contre, des expériences un peu creepy ou chelou, où d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui serait peut-être trop fan de toi ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Alors attends, je voudrais juste revenir sur un truc. Ouais. T'étais pas nulle, en fait, au début, c'est normal d'être nulle sur les trucs, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et tu vois, regarde comme, combien d'années ça t'a pris de... d'être pouce là.
Minou, non, mais tu es en train de le lécher. Minou, en fait, c'est pas possible. Ça donne une super image. Ça donne vraiment le fait que je suis vraiment une mauvaise mère. Minou, il s'en fout,
Non, mets un truc devant, mets-le la boîte rouge devant et puis tu la lèves. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, au début, c'est normal d'être nul. Et en fait, il y a des choses, tu peux pas les apprendre en un mois, c'est pas possible, tu vois. Et le sport, c'est pas parce que tu fais 3 séances d'une heure que tu deviens super puissant, c'est parce que tu fais 1 an, 3 quarts d'heure par-ci par-là, tu vois. Et voilà. Donc, je voulais juste te dire ça. Alors, je suis allée chez 45 abonnés à peu près, pour 45 projets différents. Et il y en a peut-être 2 qui étaient un peu awkward, tu vois.
Ok.
Mais bah déjà, en fait, c'est ça qui est incroyable, de faire des choses avec des gens, et je ne peux que vous encourager si vous, vous écoutez cette intervention, cette poésie sur pattes. Je peux que vous encourager à faire des choses avec les gens, donc soit manuel, soit la cuisine, soit lire un livre ensemble, tu vois, genre se lire des trucs, soit construire un truc ensemble. En fait, ça donne un objectif commun, et du coup, t'as plus besoin de prouver qui tu es, tu peux juste être. Enfin, tu vois. Et du coup, bah, ça enlève la gêne, on a un objectif commun. Et même si on n'a rien à se dire ou on n'a pas des personnalités qui matchent, on est tous concentrés vers un objectif commun qui a en plus des valeurs au-delà de juste fabriquer des toilettes sèches ou construire un compost et tout. On fait ça pour l'écologie, quoi.
Ouais, et j'imagine que c'est le truc rassurant, c'est que comme l'objectif, c'était quand même l'écologie, t'es jamais tombé sur genre des gens d'extrême droite.
Ouais, voilà, en fait, ouais. Et puis les gens partagent pas mal les valeurs d'écologie et de féminisme et tout, donc il y a ça aussi, mais il y a des gens avec qui j'étais pas copain, quoi. Il y a des gens avec qui je suis restée super amie, et il y a d'autres gens, et ça c'est le plus dur, avec qui, enfin vraiment, on avait une connexion du cœur, et en fait, j'étais que là que 4 jours, et du coup, ça part, quoi. Je pars, et on s'écrit un petit peu, et peut-être qu'on se revoit. Parfois, je débarque chez les gens de façon improbable. Ils doivent l'accepter, d'ailleurs, parce que moi, je suis pas du tout du genre à planifier. Et puis parfois, on savait qu'on aurait pu devenir meilleurs amis, tu vois. Et puis, en fait, on ne devient pas parce que la vie, on manque de temps, quoi.
Bah ouais, complètement. Ouais.
Plus important, le temps. Vraiment, c'est le plus important, je pense. De toutes mes recherches d'écologie, ça fait 1 an et demi et tout, je me dis, le plus cher, c'est vraiment le temps, quoi.
Mais l'amour que tu donnes aux gens se ressent. Moi, le plateau, tu vois, la nouvelle scène, c'est 115 places. Sans annoncer, comme les gens savaient qu'il y avait un plateau des mecs que je veux ken, il y avait à peu près 37-40 résa. Puis j'annonce le mercredi soir le line-up. Le jeudi, tu fais une story. En 1 heure, c'était complet.
T'imagines, ça fait trop plaisir.
Ta force de frappe, meuf. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Ouais. C'est quand même un truc de ouf.
Vraiment. Bah écoute, c'est trop cool et j'ai trop hâte de voir les gens en public et tout.
Ah bah ouais, bah ça va être tout public en fait. Les gens viennent pour toi. Et
c'est après, la programmation est incroyable.
La programmation est incroyable, ça va être un super plateau. Mais j'ai rarement eu autant de réactivité en annonçant un line-up et c'était que sur ton nom. Enfin, je suis désolée pour les autres. Non, mais vraiment, il y avait un truc où les gens étaient là, Swan, je l'adore.
C'est
et
c'est aussi inédit, hein, ouais. Juste pour les humoristes connus qui nous écoutent, pas de
jalousie. Chagrin,
que vous êtes sur scène tous les soirs, donc les gens, ils s'en battent les couilles en fait. Moi, je suis très rarement sur scène, ça fait 2 ans que je suis pas montée. Donc, il y a aussi ça. Puis en ce moment, j'en parle beaucoup sur les réseaux parce que c'est... Enfin, j'ai l'impression d'avoir redécouvert mon premier amour, quoi. Et c'est incroyable, j'arrive pas à dormir la nuit tellement je suis heureuse de faire ça. Ouais, c'est... Puis quand j'écris du stand-up, ça commence toujours, t'inquiète pas, je la laisse pas manger.
T'es un garçon.
Quand je commence à écrire du stand-up, ça commence toujours dans les larmes et l'émotion, parce que je pars toujours de trucs du cœur et tout. Et ça finit en salle des grosses barres, parce que j'écris avec Matteo Balestriero, qui est celui qui m'aide à faire les réels aussi sur Instagram, qui travaille avec moi, qui est quelqu'un d'incroyable, qui est un artiste aussi, qui fait des petites vidéos sur Insta, sur YouTube et tout. Il a dépassé 1 million de vues sur sa première vidéo.
Waouh!
Ouais, il est trop fort. Et du coup, c'est toujours fort et j'en parle beaucoup sur Internet en ce moment. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une force de frappe en toute modestie.
Sois pas modeste, c'est dingue. Et je le dirai ce soir quand je présenterai la soirée, quoi. Je m'adresserai aux fans de Swan. Mais moi, il y avait vraiment un truc quand on s'est justement rencontré à ce stand-up à la Laverie qui m'avait marqué. C'est à la fois, donc, en fait, ton efficacité, ton énergie sur scène, ta joie Et en même temps, le discours, après on en avait parlé, tu avais été tout de suite hyper encourageante. Tu m'avais dit, mais toi, ça va le faire, tu vas être la prochaine Marina Rollman. Et ces mots, en fait, ces mots de gentillesse, ça a été un petit coussin dans mon cœur, où quand ça n'allait pas, je me les redisais dans ma tête.
Trop bien, regarde, c'est trop bien.
Et après, ce qui est étonnant, c'est que par contre, tu m'avais raconté que toi, t'avais arrêté le stand-up et que t'avais souffert du milieu. Et ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis aussi souvenue et qui est resté quelque part. Parce que quand, tout d'un coup... moi, je fais un peu le chemin inverse de toi, c'est-à-dire que je vais arrêter les plateaux. J'en ai arrêté quelques-uns depuis quelques mois. Il y a un plateau...
Félicitations.
Voilà, parisien, le Paname, quoi. Ouais. Je peux le dire, hein, j'en parle en anglais. J'y vais plus depuis mai dernier. Ouais. J'y suis pas allée. Les confinements m'ont aidé à prendre des décisions là-dessus et l'écriture du livre aussi. Et donc j'avais complètement arrêté d'aller au Paname après à partir de mai, et puis ensuite là à partir de la rentrée 2022, j'ai quasi arrêté tous les autres plateaux sauf le mien, et que des plateaux hyper safe en fait.
Ouais, faut se faire du bien. Voilà. Faut se faire du bien. En fait, enfin moi là je reviens au stand-up. Après ma rémunération n'en dépend pas, ma vie, ma carrière n'en dépend pas et tout. C'est pour ça que j'arrive à trouver de la joie là-dedans. Mais je pense vraiment qu'être artiste sur le long terme, en tout cas pour ce qu'on fait. Faut vraiment trouver la joie, quoi, et se taper des barres, et donc il faut aller là où ça te fait du bien, quoi. Et tant pis si c'est pas les trucs à la mode. Ouais. Enfin, il y a plein de gens qui, par exemple, font pas Montreux parce que ça marche très bien pour eux, tu vois. Il y a plein de gens qui font pas de télé parce que c'est l'enfer à la télé. Je pourrais te raconter tellement de trucs. Moi je fais pas mal de télé en ce moment et tout, et puis bah, voilà, c'est un endroit où on te maquille, on te coiffe, moi on me met des gaines amincissantes parce que quand je m'assois, j'envoie mes bourrelets, et puis moi je suis assez sexy les bourrelets, mais c'est pas possible. Mmh. C'est vraiment un univers particulier. Donc il faut aller dans les endroits qui te font du bien ou savoir pourquoi tu les fais, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport au fait que j'avais arrêté le stand-up et tout. Moi je pense qu'en fait, mine de rien, même si je suis partie toute seule en caravane soi-disant, je travaille avec une équipe quand même, on est 7 en tout. Et donc parfois ils louaient des maisons, puis je mettais la caravane dans le jardin. Et on travaille tous ensemble. En fait, moi, je suis très collégiale, quoi. J'aime beaucoup être en bande. Tu vois, je t'ai dit ce soir... Enfin, je t'ai dit, ouais, je peux venir avec 5 personnes. C'est ma team. Ouais. C'est la vérité. Et je t'ai dit aussi, je l'ai écrit. Un peu drama queen, mais ça m'a fait rire. J'ai dit, bon, je joue aussi pour eux. Mmh. Et c'est vrai, quoi. Mmh. Enfin, moi, je joue aussi pour mes copains, pour qu'on rigole ensemble. On est tout le temps collés. J'aime beaucoup le contact physique. J'en ai tout le temps... coude à coude, genre épaule contre épaule, limite on dort ensemble. Enfin, là j'ai loué une grande maison à Montpellier pour que tout le monde puisse venir. Ma priorité c'était d'avoir des lits et des couettes pour tout le monde. Ma deuxième priorité c'est d'avoir des canapés et des plaids dans le salon parce que c'est une grande maison vide pour qu'on puisse tous cocooner, tu vois. Et donc c'est marrant parce que je suis toute seule sur YouTube dans mes vidéos. Bon, je fais des vlogs et tout où il y a du monde, mais je suis toute seule dans mes réels. Mais en fait dans la vie je suis jamais toute seule, quoi. Mmh. Vraiment là en un an et demi. Alors, la nuit, je dormais tout seul en caravane. Parfois, je partais au bord des lacs, etc. Mais j'étais tout le temps avec des copains. Quoi.
Ouais,
et le
meute,
plus drôle, en meute, c'est vraiment ça. C'est vraiment la meute. Et je suis trop heureuse pour tout le monde. Et voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'a amenée à te dire ça. C'est que j'ai senti la bienveillance. J'ai senti la bienveillance et le talent. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour rigoler, quoi. Même si c'est très sérieux. Et je voyais Shirley Soignon hier sur scène, que j'admire tellement, qui
tellement,
est une femme incroyable.
Tellement forte.
En plus, moi, ça me touche trop de la voir parce que je la revois comme ça tous les deux ans quand je me ramène et tout. Et à chaque fois, genre, elle m'offre du bonheur. Quoi.
Ouais, elle
c'est
tellement,
vraiment...
tellement forte.
Et elle est. Et en fait, elle est très, très, très modeste, cette femme.
Ah ouais, 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 extraordinaire.
Et en fait, on se prend trop au sérieux en France sur l'humour, même si c'est très sérieux, ça demande beaucoup de travail. Et en fait, il faut se détendre plus, quoi. Genre, moi, pour maintenant avoir fait des vidéos qui buzzent énormément, des vidéos qui buzzent pas du tout. J'ai une émission télé, je suis sur TF1 tous les samedis, tous les dimanches à midi à 20h.
C'est quoi l'émission ?
Ça s'appelle Habitons Demain. Ah. Et ça dure une minute et c'est sur les maisons écologiques de demain.
Génial.
Ouais, c'est trop intéressant, c'est vraiment sur... les panneaux solaires, les nouvelles façons de stocker l'énergie solaire... les piscines faites dans des containers, des trucs de récup, des meubles, enfin, c'est trop intéressant, vraiment j'adore ce programme, c'est trop bien. Et donc en fait, et pour avoir voyagé, être beaucoup sortie de Paris et ne plus y revenir sauf pour le stand-up et les podcasts, Enfin, je me rends compte que enfin, le monde est riche et il y a plein d'expériences à vivre absolument incroyables qui... Enfin, qui méritent pas de se prendre la tête comme ça, quoi. Les humoristes sont vraiment des gens égocentrés, à commencer par moi.
Non.
Et du coup, ça m'intéresse plus du tout, quoi, ce rapport à la comédie, ce rapport... Puis en fait, moi, je pense que je ferais plus jamais du stand-up tous les soirs, parce que tu te regardes trop le nombril, et c'est normal, parce que c'est trop d'adrénaline et d'autofocus et tout. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est la vie, tu vois.
Est-ce que tu te souviens, il y a combien d'années, est-ce que tu te souviens précisément quel genre de circonstances t'ont fait souffrir et quel est le moment où t'as décidé d'arrêter, genre le jour où tu t'es dit j'arrête
Je me souviens très bien du jour où j'ai dit j'arrête. J'ai fait la première partie d'Harold Barbet, qui est l'un de mes meilleurs amis. Je crois que ça fait du bruit sur ton micro.
C'est le chat, c'est chiant.
Au El Camino, à Caen. Et en fait, c'était drôle. C'était une première partie... C'était drôle, c'était émouvant, c'était sympa, mais en fait, j'ai pris pas de plaisir immense. Et j'ai dit à mon meilleur ami, je pense que je vais arrêter le stand-up. Et il m'a fait, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que Harold, en plus, il a des enfants, il a vraiment une vie très extérieure de l'époque où je trouvais que c'était très nombriliste, mais c'était sûrement moi qui étais très nombriliste, hein. Je projetais ma vision sur les gens, quoi. Et puis il m'a dit, mais il n'y a pas de souci en fait. Et tu reviendras quand tu voudras. Et si tu veux plus du tout être humoriste, tu l'es plus du tout. Et voilà. Et donc ça, je m'en souviens, c'était très sain, c'était très cool. J'ai vraiment dit, it's time, tu vois. Mais j'étais déjà connue sur YouTube. Enfin, je gagnais déjà ma vie avec ça et tout. Donc, enfin, j'étais en train de gagner ma vie avec ça c'est les premiers mois, quoi.
D'accord.
Donc, ça s'est fait de façon très apaisée.
Ouais.
Mais on précédait des années de souffrance et tout. Et notamment, un lieu dans lequel je jouais à Paris. Avec des hommes sexistes qui dirigeaient le lieu, qui étaient très possessifs. Donc, dès que je jouais ailleurs, j'allumais mon portable en sortant de scène, j'avais 15 appels en absence. Enfin, c'était limite du harcèlement, quoi. Un mec que je connais très bien qui m'a dit « Ouais, faut que tu reprennes la scène récemment. » Qui m'a dit... il y avait un grand plateau d'humour devant 500 personnes. Et il m'a dit « j'ai que 6 places. » Donc, j'ai que la place pour une meuf et 5 mecs. Bon, ok. Et du coup, j'ai choisi Tania Dutel et pas toi parce que vous avez le même niveau, mais elle est un peu plus forte que toi. Mais vraiment cash, quoi. Je le remercie pour son honnêteté, mais des trucs.
Quelle horreur!
Ouais, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je te dirai qui c'est après.
Ouais, tu me diras.
Et c'est des gens, puis ils se rendaient pas compte parce qu'en fait, quand t'es dans un milieu sexiste et malveillant, tu prends les codes de ce milieu. Moi, je me souviens avoir vu Romane Fraissinet arriver dans les coulisses du Paname pour la première fois, puis j'étais avec une Canadienne. Comment elle s'appelle, Rosalie Vaillancourt. Et puis moi, j'y suis allée. Après, je suis allée à Montréal pour jouer au Comedy Club là-bas, qui est super connu, j'ai oublié son nom.
Bordel.
Ouais, au Bordel Comedy Club et tout. Et l'accueil entre le Paname, où genre vraiment, enfin, on arrivait, donc t'avais ces deux humoristes canadiens. Roman, il revenait du Canada où il avait étudié l'humour. Rosalie Vaillancourt et tout, des gens super bienveillants, qui adorent l'humour, qui adorent explorer plein de trucs différents et tout. Là-bas, par exemple, les hommes ne disaient pas bonjour aux femmes. Et donc, personne n'a dit bonjour à Rosalie, tu vois. Et elle était horrifiée. Elle a passé une extrêmement mauvaise soirée. C'était horrible, quoi. Et après, il y avait tous les garçons d'un côté, toutes les filles d'une autre. Enfin, c'était vraiment l'école primaire, quoi. Versus moi, quand je suis allée au Bordel Comedy Club, j'étais accueillie sur des canapés. Il y avait des bières. Tout le monde m'a présenté. Genre, j'ai parlé aux plus grands, aux plus grandes. Tout le monde était dans les chambres et tout. Même si on est là pour travailler, tu vois, on n'est pas là pour se faire des copains. Enfin, on n'a pas que ça à faire, tu vois. C'était quand même très professionnel et très bienveillant et très ouvert. J'ai fait plein de passages au bordel. Enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Et donc, moi, j'ai vu des gens être... Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai vu des gens être corrompus par ce milieu, quoi. Arriver tout émerveillé, tout frais. Et puis finir, ils disaient plus bonjour aux femmes non plus. Et puis, ils regardaient que les gens qu'il fallait regarder. Et en fait, tu deviens fou, quoi. Puis, pour avoir travaillé dans des entreprises assez sexistes, voire masculinistes et tout, il y a un moment, si ceux qui font rigoler, c'est ceux qui parlent fort et qui se tapent dans le dos, ou qui s'excusent pas, tu t'excuses plus. En fait, c'est eux qui sont le mieux payés, c'est eux qui sont le plus admirés, regardés. Donc en fait, tu prends malgré toi les codes d'une entreprise. C'est très intéressant à observer, hein, c'est une mini-société, quoi.
Ouais.
Et en fait, moi, dans mon entreprise aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on pourrait me reprocher. Hein, puis ça serait marrant de faire un podcast ou une interview, mais ça l'arrive. Mais déjà, on parle jamais mal des uns des autres. Enfin, moi, je parle tout le temps mal du travail. Je suis là en train de râler, mais je vais jamais parler derrière le dos. Je vais dire, montage, c'est de la merde. Je vais dire dans les yeux des gens, je vais pas dire c'est de la merde, mais je vais dire, ce montage, ça va pas. Je vais être frustrée pour plein de trucs professionnels. Mais jamais, jamais, on a fait une remarque sur le physique des gens, sur la façon de s'habiller, sur la timidité, sur des blagues pas drôles qu'aurait dit quelqu'un. Enfin, c'est vachement inclusif, tu vois. Enfin, genre, par exemple, on est partis en séminaire tous ensemble. Et à un moment, on est allé dans un hammam, sauna, machin. On sort, on boit un verre et on commence à se maquiller. Ben, on a maquillé aussi les garçons, tu vois, mais ils n'étaient jamais maquillés. Et c'était pas une question de dire c'est quoi le genre, on s'en battait les couilles, tu vois. On était juste là, c'est trop rigolo de se maquiller, donc on s'est tous maquillés. Ça nous arrive de faire des blagues et des maladresses, mais on s'excuse direct. Ouais. Donc en fait, c'est intéressant de voir ce que tu infuses dans ton entreprise. Et c'est même pas que quand les gens commencent à parler mal, on dit stop, c'est que ça n'existe pas, ça n'a pas sa place. En fait. Personne ne parle mal des autres. Ça ne change pas qu'on a des frustrations, des affinités et tout, tu vois, mais...
Ouais, mais ça met du temps à se libérer des personnes toxiques et de définir. Moi, c'est vrai que avant le stand-up, je connaissais un peu YouTube. Et en fait, moi, ça me paraissait pas spécialement ouvert aux femmes.
YouTube, c'est dématérialisé, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas d'endroit à être dans lesquels être accueilli parce qu'il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. C'est chez nous, tu vois. C'est nos chambres. En l'occurrence, moi, mes chantiers, ma caravane, tu vois. Et YouTube, en fait, c'est un média. Donc, c'est comme une chaîne télé. Genre, c'est la 2. Et sur la 2, où c'est comme voilà, Netflix, tu vois, et genre tu peux choisir plein de programmes, etc. Et donc, tu peux être qui tu veux sur YouTube. Tu peux. Et c'est aussi un endroit qui trouve sa niche. Donc en fait, sauf les gens fous, les haters et tout, en général, quand tu tombes sur une vidéo qui ne te plaît pas, soit à cause de la musique, soit à cause du physique de la personne que tu regardes, soit à cause de sa voix, soit à cause du sujet, tu peux regarder une autre vidéo. Parce qu'il y a des millions et des millions, voire des milliards, je pense, de vidéos sur YouTube. Donc en fait, les gens qui restent en général t'adorent ou sont touchés par qui tu es ou trouvent ce que tu racontes extrêmement pertinent. Et donc, il y a, moi j'ai un copain que je cite souvent qui a une chaîne sur les batraciens et les serpents et tout. Et en gros, lui, il gagne très très bien sa vie. Et ouais, il fait plein de partenariats avec des magasins de plantes, de terrariums.
Dingue.
Et voilà, et en fait, il a une communauté de fans incroyables qui sont des gens qui adorent élever des mygales et des serpents, quoi. Genre, et bah, en plus, le gars, il est trop sympa et tout. Et vu qu'il vit de sa passion, et juste, il filme sa passion, ça se passe très bien. Et du coup, pour moi, c'est un copain de YouTube, alors que moi, je ne suis pas spécialement fascinée par les mygales et les serpents. Il y a de la vulgarisation scientifique, il y a du make-up. Alors moi, je ne regarde pas du tout le make-up, mais je me suis attachée à des femmes et des hommes qui se maquillent et je suis touchée par leur personnalité. Il y a des gens transgenres qui en parlent, il y a des gens transgenres qui n'en parlent pas. Il y a des gens super homosexuels qui vont parler que de politique et ils disent jamais qu'ils sont homosexuels et on s'en fout, tu vois. Et donc en fait, c'est toi qui choisis et ton public dit oui ou pas, en fait. Donc tu peux te disposer. La scène, c'est quand même un autre rapport où tu t'imposes un peu à des gens. C'est pour ça que j'adore les spectacles. Enfin, j'ai entendu beaucoup de bien de ton spectacle par mon amie Ambre Larazek. Et elle m'a dit que c'était génial, donc c'est trop cool. Et quand elle m'a parlé de toi, j'étais trop contente. Le podcast, dont le titre je trouve incroyable, j'avais suivi de loin, je trouvais ça génial aussi. Et donc c'est important de... c'est important de mettre de la bienveillance quoi, dans la clinique.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mais en fait, YouTube, si tu veux parler... J'ai une copine qui a lancé sa chaîne d'astrologie. J'ai dit, si c'est pertinent et tout, tu toucheras les gens que ça doit toucher, quoi.
Ouais.
Et donc, il y a beaucoup plus de liberté. Et puis, tu vois, moi, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des sketchs, j'ai fait des vidéos drama, j'ai fait une énorme vidéo sur ma rupture amoureuse, donc qui est vraiment, pour le coup, une enquête journalistique sur le chagrin et la résilience, tu vois. J'ai fait plein de stand-up, des vannes, des vidéos réactions, des vidéos où je pleure et tout. Donc en fait, c'est très divers et du coup, tu peux t'amuser et tout. Ça m'a beaucoup touchée. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où je faisais un peu un bilan de ma carrière et où je parlais de la célébrité et de faire beaucoup de vues, de pas beaucoup de vues sur YouTube et tout, qui sont quand même des problématiques liées à mon métier. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit, et notamment un gars qui m'a écrit... enfin, qui m'a dit j'ai commencé à te suivre quand j'avais 16 ans et aujourd'hui j'en ai 23.
Waouh.
Et j'ai fait ah. Et il m'a dit genre on a grandi ensemble, tu vois.
Waouh.
Et il m'a dit on a grandi ensemble et t'as tout ce que tu m'as dit, ça a infusé en moi, et des périodes où je te regardais moins, des périodes où je te regardais plus et tout. Et voilà, puis les gens sont pas obligés d'aimer tout ce que je fais, enfin. Et donc en fait ça permet YouTube, bah c'est assez représentatif de la vie, quoi. Il y a des gens dans tous les sens, comme dans les quartiers de Paris. Enfin, toi t'habites à Paris, bah tu pourras jamais connaître tout Paris et connaître tous les univers qu'il y a dans chaque appartement, toutes les façons, tous les humours, toutes les façons de pratiquer le sexe. Enfin, il y en a pour tout, tu vois. Je le vois beaucoup sur les réseaux. À chaque fois que je parle d'un truc spécifique, il y a tout le monde qui m'écrit. Donc je vais genre parler du permis, tout le monde me dit oui, si tu veux repasser ton permis, tu peux faire ci. J'ai expliqué que j'avais une relation sexuelle avec un mec qui me demandait d'être dominatrice. J'ai genre plein de meufs qui m'ont dit ouais, moi je suis dominasse, tu veux, je t'apprends. Mais genre pas du tout de façon sexuelle et malveillante, vraiment genre je te donne des tips et tout.
Pour lui
faire mal sans laisser des marques et tout. J'étais là what the fuck. C'est incroyable. Et en fait il y a de tout pour faire un monde, et il faut juste être super bienveillant et trouver ton équilibre, tu vois.
On peut reparler de ta vidéo sur la rupture, qui est quand même un truc. Combien de temps t'as mis à stocker des images, à mûrir ce projet, à finalement sortir la vidéo? T'as eu des appréhensions au moment où t'as mis en ligne? Est-ce que la réaction, genre, elle a été immédiate, mais elle a duré sur combien de temps? Enfin, c'est énorme, quoi. Ça a été, j'imagine, un peu un passage dans ta vie.
Bien sûr, bien sûr.
Enfin, la rupture et la vidéo, quoi.
Ouais, ouais. Alors, tu te souviens, je vous l'avais montré en avant-première, tu te souviens?
Ouais.
Rosa fait partie des gens qui l'avaient vu la veille ou l'avant-veille. Parce qu'on avait vachement traîné ensemble.
Je n'avais pas vu la vidéo en avant-veille.
Ah non, pardon.
Non, je n'avais pas vu la vidéo en avant-veille, mais je me souviens que les choses que tu racontes dans la vidéo, tu m'en avais parlé, notamment du fait de partenariat auquel tu étais engagée.
Ouais.
Et
je vais écrire dans un stand-up.
Ouais, je me souviens.
Pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, ma relation de couple était publique. Et j'avais fait un partenariat avec une
marque de photos à développer.
Ouais, une marque de photos à développer sur genre des tasses, des grands tableaux et tout. Et en gros, j'avais reçu 350 euros de photos de mon ex et moi sur des mugs, sur des tapis de souris et tout. Deux jours après la rupture. Et il fallait que j'en parle en story pour dire regardez, c'est trop cool et tout. Ouais, c'était assez violent. ça m'apprendra à mettre en scène ma vie personnelle. Alors, donc j'ai été quittée. J'ai beaucoup souffert et 6 mois jour pour jour après, j'ai sorti la vidéo. Donc en fait, j'ai été quittée. En fait, au début, ça allait très bien. Enfin, pendant une semaine, j'étais triste, mais ça allait, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais filmer. Puis à chaque fois que je filme un truc, c'est que je me dis que je sais que ça va aller. Quoique aujourd'hui, je pense que je filme tout parce que je trouve ça intéressant. Mais je filme tout le temps, quoi. Tout le temps, j'ai tout le temps des caméras qui traînent. Parfois, je les oublie. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et donc j'ai filmé à peu près une fois par semaine pendant 6 mois. Et ensuite, j'avais des images d'amour pur de mon ex et moi qu'on avait filmé en pensant au mariage, je te cache pas. Genre qu'on aurait des souvenirs et tout. Enfin, on n'était pas là genre on va se marier, mais c'était un peu genre pour garder des traces pour toujours de cet amour qui était incroyable et très passionnel. Et donc, en gros, donc j'ai filmé ces trucs, j'ai regardé ces images de mon ex et tout, et je voulais, ça faisait des mois et des mois, j'avais commencé un peu à reprendre les vidéos YouTube parce que j'ai arrêté à cause de la souffrance pendant quelques mois. Et après, je savais que je voulais faire une vidéo YouTube, mais je croyais que ça serait soit un face cam, où je disais, soit un sketch, soit une vidéo où on était tous les deux, enfin, tu vois, je me disais, voilà, on va en parler, il fallait faire le coming out de la rupture, parce qu'en plus, tous les jours, les gens me demandaient où est-ce qu'il était, et tout, c'était horrible, ouais.
Oh mon Dieu.
C'était vraiment horrible, parce que je parlais beaucoup, beaucoup de lui, parce que j'étais très, très amoureuse, et puis on était tous les deux youtubeurs et tout. Et en fait, ça m'est venu tout seul, la vidéo. Donc en fait, j'avais écrit des tonnes de trucs, des sketchs, des courts-métrages, des trucs et tout. Et c'était la fin du confinement, moi je suis restée confinée 10 jours de plus dans mon appartement. J'étais rentrée dans mon appartement pendant le confinement, parce que j'étais dans une maison. Et bon, au bout d'un moment, on sentait bien que ça allait se décanter, donc je suis rentrée toute seule dans mon appart. J'avais déjà décidé de partir en caravane, donc j'avais déjà enlevé presque tous mes meubles. Et j'avais plus que mon énorme MacBook Pro, donc c'est un grand ordinateur, sur une table basse. Et j'avais même pas de coussin pour m'asseoir, donc j'étais assise sur le sol en tailleur, quoi. Et j'ai fait le montage toute seule en 3 jours. Et je suis sortie une seule fois, c'était pour aller à la marche de justice pour Adama. C'était au moment de Black Lives Matter. Black Lives Matter. Et je suis juste sortie à ce moment-là, donc moi j'avais pas vu de gens depuis deux mois et demi. Et genre,
je me souviens,
dans une foule de milliers
aussi.
De personnes avec un masque et tout.
Mais
c'était
pareil.
Trop bizarre. Et en roller, j'étais, je me souviens, je suis allée en manif en roller.
Ouais, devant le parvis de justice.
Ouais, voilà, c'est ça, qui était aussi.
Ouais. Ouais.
Et bah, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens que j'ai croisés. Ouais. C'était trop plaisir de sortir du monde. Et, voilà. Et après, je suis rentrée en roller à la maison, j'ai fini le montage. Et c'est venu de. Ouais, c'est venu de mes tripes, quoi. En fait, j'étais très rationnelle. J'ai peu pleuré, un peu, mais j'ai plus pleuré en voyant le témoignage de Louane, donc ma meilleure amie, qui m'a beaucoup soutenue et qui était la seule à faire des blagues devant la caméra au moment où moi j'étais là, bah, je vais mourir, donc j'ai dit aux gens, je vais mourir. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée de voir ce petit être incroyable qui a été mon... Bah, qui a été mon cœur artificiel. Trop émue quand je parle de ce petit bout de chou.
Ouais.
Ça a été vraiment mon...
Votre relation, elle est dingue.
Ça a été mon cœur artificiel pendant des mois, quoi. Donc, c'est vraiment grâce à elle que j'ai continué à avoir du sang dans les veines et que mes poumons ont continué à fonctionner, quoi. Et du coup, j'étais émue de ça, mais les images avec mon ex et mes images de rupture, j'étais très rationnelle. J'étais vraiment comme une monteuse, quoi. J'étais là, oh là là, blablabla, cool et tout, genre, vraiment. Et en fait, c'est comme, genre, c'était vraiment le symbole d'une bibliothèque vide, et de plein de cartons, avec plein de notes, et de livres, et j'ai tout rangé, quoi. J'ai tout rangé, j'ai tout trié. J'ai dit, ok, ça reste des traumatismes, ça, c'est émouvant, ça parle du futur et tout. Et en fait, c'était fluide, et... Moi, je monte beaucoup à l'oreille, donc à la musique. Donc, j'ai choisi mes musiques. Je me souviens, il y a une espèce de musique celtique improbable. Genre, c'est vraiment pas du tout une musique que j'aurais écoutée dans la vraie vie, quoi. Mais là, je la mettais sur les images. J'étais ça, bah ouais, c'est ça, quoi. C'est la musique bretonne. C'est les rondes, les petits doigts qui s'accrochent et les bigoudaines, quoi. J'étais là, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça qui représente ma résilience. C'est ça qui représente ma résilience, genre. Et du coup, j'ai monté tout ça. J'ai invité mes copains. Donc, je me souviens, il y avait Julien Josselin, Mathieu Corneau, Jémile, je pensais qu'il y avait toi, parce que c'était une période où... Mais en fait, c'était après le confinement, mais toi et moi, on traînait beaucoup ensemble avant le confinement. En gros, tous les copains avec qui j'avais pas mal traîné dans cette période. Tu sais, il y avait 9 personnes qui avaient les clés de mon appartement à Paris, c'était vraiment n'importe quoi, c'était vraiment c'était déjà le début de la meute, quoi. Mm. Et je les ai invités tous et je leur ai montré, et je pensais pas que ça allait faire un méga buzz, mais je sentais que c'était exactement ça, quoi.
Ouais,
je
sentais que c'était...
exactement la transmission de mon cœur et de mes émotions et du fait que mon cœur avait été arraché et que j'avais aimé à la folie, que j'aimais encore d'ailleurs, et j'ai bouclé ça et j'ai cliqué sur publier à 10h du matin le lendemain, et à 10h01 j'étais dans la voiture pour partir faire le projet en caravane.
Oh.
Ouais.
Mais quelle vie.
Ouais.
Et ensuite, la réception des gens.
La réception des gens, ça a été super violent. C'était... En fait, c'est pas du tout agréable un buzz, contrairement à ce que tout le monde peut penser. C'était horrible. C'était très, très violent. Donc, mon ex a pété un câble.
Ah ouais ?
Ouais, ouais, il a pété un plomb. Il a dit que je l'avais pas quitté par mail. En plus, il l'a dit en story. Oh. Donc c'était super violent. Il y a plein de gens qui ont pris ça pour des règlements de compte, alors que pas du tout. C'était super violent. J'ai été contactée par... genre 50 journalistes, donc en fait j'ai éteint mon portable pendant 3 jours. C'était Louane qui a lu les commentaires et tout, et puis moi j'étais j'avais des acouphènes, j'arrivais pas à respirer, enfin c'était voilà. Et donc des milliers de témoignages de rupture.
Ouais.
Donc ça, j'étais là, donc en fait
c'est dur,
personne n'est épargné. Ouais. Et des trucs beaucoup plus violents que moi, parce que moi mon ancien amoureux, bah il m'aimait plus, quoi, voilà, c'est tout. Donc il me l'a dit, et c'était... Ça a été très dur parce qu'il me l'a pas dit en face et qu'on s'est jamais revus, mais bon, moi je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, tu vois. Et
vous êtes jamais revus.
On s'est jamais revus, non.
Putain, ouais, c'est quand même bizarre. Qu'il est... Enfin, c'est tellement...
Bah, c'est pas...
C'est
que lui, après,
lâche, quoi.
Après, tu vois, avec cette vidéo, ça a été encore plus compliqué de se revoir,
ouais,
tu vois.
Parce que,
du coup, lui, il est très fâché. Voilà, donc c'est...
Bah, il avait capote la mail, hein, enfin, tu vois.
En fait, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Moi, j'ai jamais été dans une situation où il y a eu un amour fou et j'ai dû quitter la personne.
En tout cas, la tornade d'un coup médiatique.
C'est horrible.
C'est too much.
Tétanisant. Puis après, pendant un an, c'était très compliqué, même si j'ai adoré cette période. Parce que, les gens, ils voulaient que entendre parler d'une histoire d'amour. En tout cas, j'ai l'impression. Il y a 160 000 personnes qui sont abonnées à cause de cette vidéo. Donc,
c'est fou.
Il y en a qui m'ont accepté comme j'étais, mais d'autres qui voulaient des vidéos aussi intenses.
Ouais. Non,
mais, et en fait, moi, je disais,
à la base, t'es joyeuse.
Je disais, en fait, moi, je peux pas. Faire des chefs-d'œuvre vidéo tous les deux mois, et tant mieux, parce que je peux pas vivre un truc aussi intense tous les deux mois, sinon je meurs à 30 ans et c'est fini, quoi. Et du coup, j'étais là, je fais moins de buzz, mais je peux pas me faire larguer en étant folle amoureuse tous les mois, quoi.
donc après, beaucoup de pression.
Ouais, faut continuer, avoir un contenu pertinent et émouvant et tout. Et là, j'ai l'impression d'essayer de redevenir moi-même en contenu et tout, même si j'ai adoré. Forcément, j'ai parlé de la caravane et tout. Mais j'étais un peu à côté et puis je voulais plus livrer autant, quoi. Parce que j'ai tellement livré. Et je me suis fait tellement insulter aussi. Des gens. En fait, j'ai eu un article dans Télérama qui était incroyable. Je remercie les journalistes qui en ont parlé d'ailleurs. Qui ont dit parler de sa rupture amoureuse, c'est risquer l'impudeur. Un truc comme ça. Et Swan arrive à éviter ça avec brio, quoi.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens. Que ça a mis mal à l'aise, que ça a mis devant leurs propres contradictions, devant... Enfin, tu vois, les gens qui sont dans le déni de l'émotion et qui disent « c'est pas très grave de se faire larguer ou de larguer quelqu'un », enfin, notamment la personne qui m'a quittée, quoi, qui disait tout le long de ces 6 mois « ça va, c'est pas grave, quoi », être confronté à quelqu'un qui souffre autant, c'est super violent, quoi.
Ouais.
Donc, il y a plein de gens qui ont dit que c'était impudique, qui ont trouvé ça indécent... Je me suis bien sûr éloignée de tous les gens qui étaient amis avec mon ex et moi, mais qui étaient que amis avec mon ex, qui m'ont comparée avec une actrice de télé-réalité. C'est dur. En fait, moi, je prends des risques artistiques incroyables. Même aujourd'hui, je fais des petits réels de 15 secondes et tout. Je parle beaucoup de mes amants, de mes histoires sexuelles et tout. Et je perds beaucoup de gens. Bien sûr.
Tu perds des gens, tu veux dire parmi les abonnés ou parmi les gens contraires de ta vie?
Gens dans ma vie qui sont pas contents que je parle d'eux alors qu'ils sont méconnaissables, qui sont pas contents que je fasse des blagues. C'est pas sur eux, c'est sur comment moi je me suis sentie quand... Voilà, il y a des gens qui se vexent et tout, mais c'est tellement ma liberté, moi, ma création, que tant pis pour eux. Après, je parle pas de choses où les gens me disent de pas en parler, mais voilà, moi je joue sur la réalité et voilà. Je suis pas en train de dire que je mène une caméra et que je vais te dénoncer en train de raconter je sais pas quoi, tu vois. Mais voilà, je vais parler sur scène d'un mec qui m'a dit on passe le week-end ensemble et j'avais pas envie. Donc je développe, genre pourquoi j'ai pas envie, que ça me saoule trop et tout. C'est probable qu'il se vexe, tu vois, genre. Mais je lui dis avant de sortir la vidéo. Mais je vais pas retirer la vidéo, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme ça que je fais de la comédie, tu vois, genre. Puis ça le regarde pas, il y a pas son nom, il y a pas sa tête, genre. Enfin voilà.
C'est le deal, en fait.
C'est même pas un deal, ça le regarde pas, c'est mon travail, en fait. Voilà.
Et justement, les hommes aujourd'hui, l'amour, ton constat, il est plutôt optimiste, positif. J'ai l'impression avec les réels que. Quand même, il y a pas mal de tocards. On est en train de finir un petit peu le petit déjeuner.
Ouais, désolé, on est en train de manger. Je grossis les traits dans ma comédie. Et je parle de beaucoup de choses qui sont devenues inacceptables pour moi, donc des choses sexistes, malveillantes, parce que c'est plus drôle. Donc moi, je suis polyamoureuse. Et donc, j'ai quelques très belles relations qui sont incroyables, très touchantes. Et ça, j'en parle pas dans mon travail. Mais c'est très dur. C'est très dur de... Enfin, je suis pas du tout prête à être amoureuse de nouveau, quoi. Enfin, à être en couple, à être en relation, à faire confiance. Mais je vis des choses très très belles et je crois vraiment à l'amour. Par contre, le féminisme ne peut plus être exclu de mes relations, quoi. C'est trop important. Et ma liberté... Enfin, et moi, je viens avec ma liberté et mes copains, quoi. Donc, en fait, il y a toujours une bande avec moi. Donc, soit les gens, ils acceptent, mais s'ils veulent être tout seuls avec moi, ça marche pas. Donc, en fait, mes amants, ils connaissent ma bande et ils connaissent mon féminisme. Ils peuvent pas me demander de m'épiler quand j'ai pas envie, de faire l'amour si j'ai pas envie, de pas parler d'eux en comédie. C'est plus possible, quoi. Mais ça les regarde même pas, en fait. C'est autre chose, c'est un autre monde. Mais donc, voilà, j'ai confiance en l'amour, mais alors c'est sûr que je suis... C'est compliqué de remonter en scène, en selle. Voilà, mais tu verras ce soir, j'en parle de façon... Il y a des métaphores très justes.
Trop hâte d'écouter. Bah ouais, ça me fait du bien ce que tu me dis, puisque moi aussi, je... Dans mon livre et sur scène, et pareil aussi ce soir, je parle de... Bah, de ma vie. Mais en effet, sans nommer, et puis toujours en exagérant. Mais oui, en prenant le risque... Alors, non pas que ça fasse de la peine, mais que ça fasse peut-être un peu flipper, faire fuir le mec. Mais comme tu dis, après, tout, c'est le risque. Tu vois, c'est... Après, ça doit pas... Toi, tu choisis dès le départ des mecs à qui tu dis le postulat, c'est que je suis polyamoureuse, donc ça sera que des relations libres, ouvertes, ou...
Bah, en gros, c'est ce que je disais à un copain, puis en fait, parfois, c'est compliqué. En fait, j'ai appris vraiment à dire non. Et vraiment, la semaine dernière, j'ai dit non à deux mecs.
Sur les applis, tu veux dire?
Non, dans frontal.
Ah ouais?
De les yeux dans les yeux. Donc, un mec qui est venu me vendre des surgelés à ma porte, parce que j'habite dans une maison. Je sais plus, on s'est appelé deux jours plus tard, parce qu'après, il appelle les gens pour leur dire alors, est-ce que vous voulez magazine, je sais pas quoi. J'ai été très friendly, quoi. Et du coup, il a mal interprété, il a commencé à m'appeler ma douce, à dire ah, j'ai trop envie de te revoir. Et je lui ai dit, ah, je ne suis pas du tout intéressée. Hein, c'est pas du tout, enfin, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je cherche pas du tout une relation romantique, de tendresse et tout, ou sexuelle, ça m'intéresse pas du tout, mais merci, et vraiment désolée, sans s'en nier sa souffrance, quoi. Mais voilà, j'ai mis un stop direct. Et un autre gars, voilà, qui est venu, puis ça s'est mal passé. Donc il vient, donc il y a toujours une bande de copains avec moi, donc il y a la bande de copains et lui. Et puis j'avais plus envie d'être avec ma bande de copains qu'avec lui, quoi. Et donc je suis allée lui dire, en fait, à un moment c'est un peu isolé et tout, j'ai dit voilà, je suis désolée, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi, et voilà, enfin je suis pas dans ce mood en ce moment, j'ai pas envie de romantisme, de sexe et tout. Et elle m'a dit, ah d'accord, elle me dit, bah, de toute façon je vais pas te forcer et tout, j'ai dit, merci. Et après il y a eu un petit blanc et tout, je dis, est-ce que tu veux en parler, est-ce que t'es frustrée, est-ce que ça te fait de la peine et tout. Il m'a dit, bah non, y a pas de souci, j'ai rien à dire. Et j'ai dit, bah, du coup, on dort pas ensemble. Et parce qu'on avait dormi ensemble la veille, je lui ai dit, bah voilà, j'ai envie d'inviter et tout. Et en fait, voilà, il faut prendre son courage. Moi, je manque de tact et tout, mais genre. Donc il y en a où c'est un peu chaotique. Ouais. Et puis il y en a où on devient amis avant. Je trouve ça incroyable de devenir amis avant d'être amoureux, parce que ça permet de se connaître vraiment, quoi. Tu t'es déjà vu en jogging, tu t'es déjà vu ça. Là, ils savent que tu changes pas tes masques très souvent, tu vois. Genre, c'est vraiment des barres de rire, quoi. Et tu peux être vraiment toi-même. Je trouve l'amitié, c'est incroyable. Je trouve que l'amour, c'est juste une ligne que tu choisis à deux de traverser. Et c'est trop bien, quoi. Donc, moi, ça, je trouve ça trop bien. Non.
Minou, tu arrêtes de lécher. C'est mon pain au chocolat. C'est de la nourriture. C'est un pain au chocolat. Tu as la boulangerie chère, là. Non, Minou, c'est pas possible de faire ça dans la vie. Il était calmé, et puis il retourne.
Et en gros...
Insupportable. Avant le questionnaire de Proust, je peux te poser 2-3 questions cul.
Avec plaisir.
C'est le jeu d'une amie à moi, Léa, qui a du compte Merci Beaucoup sur Insta. Et elle a sorti un petit jeu de société avec des petits des petites questions. Alors,
trop bien.
Est-ce que tu as déjà consommé des substances avant le sexe? Y a-t-il une différence avec le sexe sobre?
Non, je ne consomme aucune substance. Beaucoup d'alcool, un autre, et puis pas ça fun de faire l'amour avec l'alcool, donc non.
Ok. Est-ce qu'il y a certains aspects de la sexualité dont tu as du mal à parler?
Je suis en train de manger ma tartine de beurre. Ma tata. Enfin, non, il n'y a pas d'aspect de la sexualité dont j'ai du mal à parler, parce que c'est mon métier. Et je parle beaucoup de sexualité. Mais il y a des... Je trouve qu'il y a beaucoup de tabous sur comment dominer un homme. Genre, c'est pas facile, c'est pas culturel, il faut apprendre. Et il y a plein d'hommes qui adorent. Ça s'apprend, quoi. Donc c'est un peu ça, je sais pas trop explorer. Je connais pas du tout le plaisir anal des hommes. Un petit peu, vite fait, avec des sextoys et tout, mais je sais pas comment faire jouer un homme par les fesses, tu vois, des trucs comme ça, genre... Mais du coup, j'aimerais... développer ça, quoi.
Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dont tu n'avais pas vraiment envie pour faire plaisir à un partenaire?
Bien sûr. Ouais, beaucoup. Bah, moi, déjà, j'ai commencé à faire l'amour à 15 ans. Mon premier orgasme, c'était à 21 ans, toute seule avec un sextoy, by the way. Et je pense que j'ai commencé vraiment à faire l'amour, mais vraiment épanouie en kiffant ça et tout, à 24 ans. Donc déjà, ça fait quand même presque 10 ans de sexualité non épanouie. J'aimais beaucoup faire l'amour, j'avais du désir et tout, mais je pense que je faisais beaucoup ce que je croyais qu'il fallait faire, quoi, ou ce qu'on attendait de moi. J'ai eu du plaisir et tout, j'ai jamais eu de douleur. Mais voilà, j'étais un bébé, quoi. Je suis devenue femme à 24 ans, je pense. Je me souviens, elle m'a dit, voilà, je faisais l'amour à un partenaire, je me suis dit, mais c'est trop bien le sexe, genre, c'est ma passion première, quoi. Et encore aujourd'hui, en fait, ça m'excite tellement... de voir que l'autre prend du plaisir, que je pourrais faire n'importe quoi pour lui faire plaisir. Je me force pas, mais c'est sûr que les premières fois que j'ai mis un sextoy dans les fesses d'un homme, je me disais pas, comme c'est agréable d'écarter ses fesses, genre c'est... du coup je me force pas, mais je vais lui demander beaucoup, je vais aller explorer, je vais et puis je suis désolée, personne n'est né en sachant et en kiffant faire une gorge profonde, quoi, genre c'est quelque chose qui s'apprend. Et ce qui est agréable, c'est de faire du bien à l'autre. T'es pas là, j'adore ne pas respirer, c'est super.
Ouais, grave. Et en parlant de sextoy, avec tes partenaires, tu utilises aussi beaucoup de sextoy pour toi ?
Ouais, principalement. Ouais. Donc là, les sextoys masculins, je commence à découvrir ça maintenant. Mais de sextoy pour moi, ouais, j'en ai... En fait, j'ai un partenariat avec une marque de sextoy, de luxe,
okay,
qui s'appelle Lelo.
Oui.
Et leurs sextoys sont incroyables. Et oui, presque tout le temps dans ma sexualité, j'ai des sextoys pour femmes, ouais.
Oui, Lelo, il y a eu aussi un partenariat avec les mecs que je veux ken. Et donc, et avec Lelo, tu utilises genre le sauna, et pendant que tu fais l'amour avec ton mec, tu utilises l'un des sextoys Lelo que tu mets genre sur ton clito. Est-ce que tu arrives aujourd'hui... Moi, c'est l'une de mes questions principales sur le cul, c'est comment quand même toujours atteindre l'orgasme en faisant l'amour avec son partenaire, outre le cuni, quoi, tu vois.
Alors... Je pense que déjà toutes les femmes sont différentes. Mmh. Parce que là, tu vois, tu dis outre le cuni, mais moi par exemple, j'ai pas d'orgasme avec des cunis. Enfin, tu vois,
okay.
Plein de femmes sont différentes. Mmh. Et oui, donc j'utilise le sauna de Cruz et j'ai pas de copain. Parce que t'as dit
ton
copain.
Ah ouais, ton partenaire, pardon.
Ouais, non, j'ai pas de copain. Ça m'a fait trop bizarre quand t'as dit ça, j'ai fait. Non, j'ai pas entendu ça depuis des années, donc ça me fait trop rire. C'est plein de façons différentes, mais en fait, à partir du moment où un mec. Veut savoir ce que tu kiffes ou se permet de te dire ce qu'il kiffe et tout, pourquoi tu dirais pas, moi ce que je kiffe c'est que tu me fasses ça, et en même temps que tu tiennes le sextoy comme ça, ou c'est moi qui veux tenir le sextoy comme ça. Et en fait, mes orgasmes sont tellement incroyables que le gars est là, ok, on le refait. Voilà, après, à partir d'un certain âge, si tu choisis bien les hommes avec qui tu couches, ils veulent te faire du plaisir en fait, ils veulent te faire du bien, du coup. Moi je suis plus du tout avec des hommes où je couche pas souvent avec eux qui veulent pas me faire jouir, quoi.
Ouais, bien sûr.
Me faire jouir, voilà. Donc parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie de jouir.
Ouais.
Et parfois c'est lui qui joue pas, et ça c'est trop bien, quoi.
Ouais.
Donc en fait, si j'ai envie de lui donner un max de plaisir, j'estime que lui aussi il peut avoir envie de me donner un max de plaisir. Mais pas systématiquement, parfois il peut avoir la flemme.
Ouais.
Et moi, je trouve ça trop bien d'avoir un sextoy où c'est sûr que ça va donner un orgasme à ta ou ton partenaire. Genre, si moi, au lieu de devoir... si genre un jour, je suis épuisée, au lieu de devoir masturber un partenaire, le sucer pendant 20 minutes, j'en sais rien. Ouais. Si je pouvais avoir un sextoy qui le fait jouer en 1 minute, je serais là, mais donne-moi ça, en fait.
Ouais, bien sûr.
D'ailleurs, j'en ai. Hein, il y en a un, j'ai oublié le nom, c'est dommage. Mais là j'ai des sextoys, j'ai trop hâte de les explorer pour faire... du bien aux hommes, tu vois.
Incroyable. Bon, je passe au petit questionnaire de Proust.
Arrête.
Minou, tu t'es mal conduit de A à Z.
Le petit chat. Ah, c'est gros chat.
Pas petit.
Ah non, il est pas petit.
Pas
le laisser tomber sur son.
Oh. La qualité que tu préfères chez un homme.
Le féminisme.
La qualité que tu préfères chez une femme.
Le féminisme.
Le principal trait de ton caractère.
La joie.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
J'en ai 40 000 parce que je les adore. J'allais dire la présence, mais non. Parce que même quand mes amis sont loin et que je les vois une fois par an, je les aime. J'allais dire la loyauté.
Ton principal défaut.
La colère.
Ton occupation préférée.
Faire du roller.
Ton idée du bonheur?
Faire du roller avec mes copains.
Quel serait ton plus grand malheur?
Que Louane meure.
Où aimerais-tu vivre?
Dans une grande maison et avec mes copains qui peuvent venir autant de temps qu'ils veulent et ils ont tous la clé.
Je pourrais venir.
Bien sûr.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Les gens radins.
Oh, l'enfer! Horrible.
Ouais. Et surtout quand c'est mes colocs. Genre... Ah je parle pas de précarité. Hein.
Ouais, bien sûr. Gens.
Ça témoigne souvent d'un fort égoïsme.
Mm. Un don, un talent que tu aimerais avoir?
Faire le grand écart. Le grand écart, c'est vraiment des trucs de 8 ans et
tu sais pas faire le grand écart?
Non, tu sais faire le grand écart?
Non, pas du tout. Ah. Je pensais que toi, tu savais faire le grand écart.
Non, non. Non, non, j'aimerais bien faire un peu des acrobaties. Genre,
ah ouais, ouais, ouais.
Marcher sur les mains et tout. Mais genre, j'ai fait un an de cours d'acrobatie et j'arrivais même pas à faire le. Je sais pas comment on appelle ça, le poirier, mais me mettre sur les mains et les pieds contre le mur.
Ah ouais, ouais.
Donc laisse tomber.
Comment aimerais-tu mourir?
J'aimerais mourir en me disant que j'ai tout essayé dans ma vie pour que les humains souffrent moins.
Est-ce que t'as une devise?
En vrai, ça change tout le temps, mais c'est par rapport au succès et aux valeurs, et tout, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Tout le monde va au McDo, mais le McDo ne change pas la vie des gens. Tu veux que je développe?
Ouais, je veux bien. Merde, j'ai raté cette vidéo, donc après tout le monde ira la voir, mais...
J'ai adoré ce blanc. Enfin, en gros, ça veut dire que c'est pas parce que t'es mainstream et que genre tout le monde regarde ce que tu fais, que tout le monde te connaît, que tu vas faire des déclics dans la tête des gens, que tu vas leur apporter plus de bonheur, plus de joie, que tu vas changer leur vie, quoi.
Mm.
Et donc en tant qu'artiste, enfin moi, il y a des gens que j'ai vus... une fois sur scène, je sais pas comment ils s'appellent, je me souviens même plus où c'était, mais ils ont fait des trucs qui m'ont marqué pour toujours, quoi.
Et enfin, ton état d'esprit actuel?
Beaucoup d'amitié. J'ai vraiment envie d'amitié et de stand-up. Voilà. Donc là, j'étais à la campagne, en fait, pendant un an et demi, parce qu'une caravane, c'est impossible en ville. C'est interdit, en fait. Et là, j'ai vraiment, vraiment envie de faire du stand-up. Et j'en fais, c'est trop bien.
Trop hâte de te voir sur scène ce soir.
Ouais.
Merci Swan.
Merci beaucoup Roda. C'est trop bien. Trop bien. Quel amour.
Et voilà, c'était l'épisode avec Swan Périssé que j'aime tant. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous laisse, je vais aller me préparer pour la représentation de ce soir au Bélier. J'ai hâte, j'ai un peu peur, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait un showcase, quoi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pros dans la salle, donc il y a énormément d'enjeux parce que c'est des programmateurs de théâtre de province. Donc en fait, l'avenir de ma tournée de 2023-2024 dépend beaucoup de la représentation de ce soir. Et c'est la première dans un nouveau lieu quand même, avec plein de choses à gérer. J'ai changé aussi pas mal de petites blagues du texte. Donc, petit stress, mais j'espère que ça va bien se passer. Et je dois vous laisser pour aller bosser. Je vous embrasse. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.